Comment les livres changent le monde. Une série proposée par Régis Debray, conduite par Didier Lesky, avec la collaboration d'Alban Cerisier.
Faire événement est une chose, souvent sans lendemain. Marquer un événement en est une autre. À côté des livres qui font du bruit, tant mieux pour eux, il y en a certains, plus rares, appelés à faire époque, dont on peut dire qu'avec eux, il y a eu un avant et un après. C'est cela en particulier dont nous voudrions, sur un demi-siècle, évoquer les retombées sur le cours des esprits, des pouvoirs, des mœurs et des combats.
Parmi les ouvrages qui ont pu infléchir la marche du monde, ou la conscience que nous en avons, 1984 de George Orwell, dernier ouvrage que l'écrivain anglais souffrant de tuberculose fit paraître de son vivant. Projeté dès 1943, écrit entre 1946 et 1948 dans la ferme que George Orwell louait alors sur l'île écossaise de Jura, le roman fut publié en juin 1949 en Angleterre et aux États-Unis, puis un an plus tard, et donc à titre posthume en France, dans la collection La Méridienne des éditions Gallimard. Le succès est au rendez-vous, 360 000 exemplaires vendus aux USA, 50 000 exemplaires en Angleterre, un an après sa parution. Avec sa puissante imagerie, sa force expressive, l'ouvrage s'impose dans le discours commun de l'Occident contre le communisme stalinien, une espèce de super arme idéologique, comme l'écrit l'historien Isaac Deutscher en 1955, dans les temps modernes. En France, la réception est plus timide, un premier tirage à 11 000 exemplaires, une diffusion encore modeste jusque dans les années 1970. Et puis, si les ventes s'élèvent peu à peu, la vraie bascule s'opère à la fin des années 1990, avec des ventes d'environ 70 000 exemplaires par an, jusqu'à atteindre aujourd'hui un tirage total en France de 3 millions d'exemplaires, marqué par le grand succès des nouvelles traductions. 1984, comme aiguillonné par l'actualité du monde, a été avec La Peste l'un des best-sellers de la période pandémique, mille fois cité, mille fois lu. Orwell avait écrit à la parution de son livre que son intention était de montrer, en les parodiant, les conséquences intellectuelles du totalitarisme, précisant, je cite, que la morale à tirer de cette situation dangereuse et cauchemardesque était simple, faites en sorte que cela ne se produise pas. Cela dépend de vous. Une autre façon de dire peut-être, méfiez-vous des intellectuels, les idées totalitaires ont pris racine dans leur cerveau, un peu partout. Et de prévenir que la lecture anti-soviétique était certes recevable, mais réductrice, et surtout promise à une rapide obsolescence. Il n'en fut rien, comme l'atteste la gloire contemporaine d'Orwell. Tout se passe donc comme s'il y avait un besoin social continu et grandissant, pour cette œuvre. C'est à ce besoin social et à cet usage pratique, et donc en dernier ressort à l'effet d'un livre sur le monde, que nos invités vont nous aider à réfléchir. Nous avons le plaisir, avec Régis Debray et Didier Lesky, d'accueillir à distance le philosophe Jean-Claude Michéa. Bonjour. Auteur de plusieurs ouvrages sur la gauche et le socialisme, et auxquels on doit d'admirables études sur l'œuvre et la pensée de George Orwell, toutes publiées aux éditions Climat. Notons en particulier Orwell, anarchiste Tory, votre premier livre publié en 1995 et dont on ne peut que recommander la lecture de la récente cinquième édition, enrichie d'une très stimulante postface mettant en lumière les usages idéologiques de la double pensée et de la novlangue. Vous nous en reparlerez. Avec nous également le journaliste du Figaro, Alexandre Devecchio. Bonjour.
Bonjour.
Co-fondateur du comité Les Orwelliens. Et collectif de journalistes, présidé par Natacha Polony, et qui se revendique de l'héritage intellectuel et journalistique de l'auteur de 1984. Vous nous expliquerez pourquoi cette référence est à vos yeux aujourd'hui centrale. Un grand merci donc à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Rappelons enfin que l'on peut lire 1984 dans plusieurs éditions, en particulier en folio dans le monde entier, dans la traduction de José Camoun, et bien sûr dans la Pléiade, dans l'édition dirigée par Philippe Jaworski, également traducteur de 1984.
Cher Régis Debray, la parole est à vous pour une première approche critique de 1984 et de sa réception.
Le devenir des bouquins, savez-vous, regorge de quiproquos. Et leur réception est toujours une aventure. Il y a bien des malentendus dans les gloires littéraires et plus encore s'agissant d'un écrivain qui a plongé dans son siècle les yeux grands ouverts au milieu de la mêlée. 1984 de George Orwell, publié en 1949, a de quoi sur ce point faire exemple. L'ancien combattant de la guerre d'Espagne, Éric Blair de son vrai nom, mort en 1950 à l'âge de 46 ans, fut, il convient de le rappeler, un militant travailliste, partisan de la nationalisation des industries lourdes dans son pays. Celui que le malheur ouvrier et l'impérialisme britannique scandalisaient, ne rêvait-il pas en 1944 de réquisitionner le Ritz pour y loger les milices ouvrières ? Et le voilà enrôlé, après sa mort, par un côté de la barricade qui n'était pas exactement le sien. On peut comprendre la réquisition ou la requalification posthume de l'auteur tant il goûtait le pas de côté. Athée, il avait par exemple demandé à être enterré selon les rites de l'Église anglicane. Si l'auteur d'Hommage à la Catalogne, qui avait respiré à Paris et à Londres l'odeur de la dèche, haïssait le communisme, c'était pour avoir trahi ce qu'il appelait le camp des vaincus. Sa lutte contre la société totalitaire fut une lutte contre une perversion, contre un dévoiement. Je suis convaincu, écrit-il, que la destruction du mythe soviétique est essentielle si nous voulons relancer le mouvement socialiste. On peut aujourd'hui juger quelque peu optimiste l'alliance qu'il prônait entre l'économie planifiée et la liberté de penser, sans parler de son espoir de voir rétablir un jour les concepts de bien et de mal dans le champ politique, champ dont l'immoralité constitutive n'est pourtant plus à démontrer. On ne peut nier cependant que sa défense de la commande des sensi et des gens ordinaires est toujours à l'ordre du jour, y compris dans nos contrées où Big Brother a pris congé. L'écriture n'est sans doute pas chez lui des plus sophistiquées. Elle dit ce qu'il y a à dire en toute simplicité, en toute sobriété, sans raffinement excessif. La bonne prose, disait-il, est comme un verre à vitre. Ce qui peut expliquer en France un certain retard à sa canonisation, littéraire en tout cas. L'œuvre d'imagination chez lui garde un ton documentaire et ostensiblement polémique, bien que la politique n'était au fond ni sa vocation, ni sa cup of tea. Son œuvre culmine sur le célèbre apologue de 1984, mais elle a commencé, souvenons-nous-en, par des comptes rendus et des enquêtes quasiment journalistiques en Birmanie, en France, en Espagne. La postérité en a fait un idéologue, mais ce fut d'abord un homme d'expérience qui en accumula trois avant d'écrire son livre emblématique, « La dureté coloniale en Asie », la condition prolétarienne ou la condition des paumés en France, la guerre civile en Catalogne, une addition d'épreuves assez rare chez les mains à plumes, que ce soit celle de son temps ou d'une autre. Elle n'empêcha pas ce casse-cou de vanter et prôner les poêles à charbon et les fauteuils confortables. En dehors de mon travail, a-t-il noté, la chose qui me retient le plus à cœur, c'est le jardinage, et plus particulièrement l'entretien de mon potager. On voit d'ici André Malraux écarquiller les yeux. Ce n'est pas le genre de la maison. Parmi les leçons à retenir de cet entêté modeste, qui a livré, je le cite, une lutte constante pour effacer sa propre personnalité, il y a cette injonction qui n'a pas vieilli, me semble-t-il, faire face à l'urgence politique sans jeter au panier ses principes, ce qui exige de s'adosser à des valeurs qui dépassent le politique. Et il ajoutait « Je suis convaincu qu'un écrivain ne peut demeurer honnête que s'il se garde de toute étiquette de parti. » Voilà une précaution d'ordre éthique, une gageure difficile à tenir, encore plus quand on revendique un statut qui ne va pas de soi, celui d'anarchiste conservateur. Orwell, un inclassable emmerdeur, toujours en porte-à-faux, toujours paradoxal, disons plus simplement, encore et toujours d'actualité.
Merci Régis Debray. Jean-Claude Michéa, dans votre essai sur Orwell, vous terminez par « À nous de savoir enfin ». faire des écrits de George Orwell l'usage révolutionnaire et émancipateur qu'ils appellent depuis si longtemps. 1984 est toujours un appel à être pour une politique émancipatrice.
Je crois qu'il suffit d'ouvrir les yeux sur le monde dans lequel nous vivons pour découvrir que ce qu'on appelle parfois un monde orwellien, c'est l'ambiguïté du terme, c'est quand le terme est employé de manière péjorative, eh bien, c'est l'idée d'un monde orwellien me semble au moins aussi actuelle aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque de Staline. C'est un peu le thème que je développe dans la postface de la nouvelle postface d'Orwell Anarchy Story. Quand vous regardez ce qui se passe sur les campus américains, tout le monde connaît par exemple maintenant l'exemple fou du documentaire sur Evergreen, là où règne l'éthique woke intersectionnel du capitalisme moderne, on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout éloigné de l'univers que décrivait 1984. Et la question qui va se poser, je suppose qu'on doit en parler, c'est comment expliquer que 1984, qui effectivement au départ est centré sur l'univers soviétique, bien que dès le départ, Orwell ait bien précisé que l'horizon du livre était bien plus grand. Comment se fait-il que cet univers qu'il décrit s'applique et fonctionne de manière aussi bien à l'époque des GAFAM, de la Silicon Valley, de ce que devient la gauche américaine, en tant qu'elle est la forme que prend aujourd'hui le volet culturel du capitalisme? Voilà la question qu'il faudra poser, à mon avis, aujourd'hui.
Et est-ce que c'est pas d'une certaine façon, on sait que Orwell a été dans l'écriture de 1984, dans son inspiration, influencé par un autre très grand livre de Eugène Samiatine, Nous autres. Et je relisais ce qu'il en disait dans une de ses chroniques, dans une de ses critiques. Ce que Samiatine semble viser, ce n'est pas un pays en particulier, mais les fins implicites, pardon, de la civilisation industrielle. Est-ce que ça vous retrouvez, vous, dans la critique que fait Orwell de Samiatine et votre lecture de 1984 et de l'œuvre d'Orwell en général?
Bien sûr, il y a une préface à Animal Farm, la préface ukrainienne, je crois, où il dit que viendra un moment où ce qu'il dit aujourd'hui de l'Union soviétique et de Staline sera l'opinion communément admise. Et pour autant, dit-il, rien n'aura changé. On pense toujours à la formule de Castoriadis, quand il se moquait des nouveaux philosophes à la Bernard-Henri Lévy, en disant « c'est pas parce qu'on a changé de trottoir qu'on a changé de métier ». C'est-à-dire que, j'en reviens à cette idée, dès le début, 1984, à mesure où il est écrit du point de vue socialiste et du point de vue des gens ordinaires, ciblait au-delà de la Russie de Staline la logique du capitalisme lui-même. Et ce qu'il dit de Samiatine, vous avez raison, c'était déjà présent chez lui. Mais évidemment, c'est la fameuse lecture américaine qui est due au fait que, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, les tirages extraordinaires d'Animal Farm et de 1984 en Angleterre et aux États-Unis étaient tels que seul 1% de ces nouveaux lecteurs connaissaient Orwell comme écrivain socialiste, défenseur des gens ordinaires, proche non pas du Parti travailliste, comme Régis l'a dit tout à l'heure, mais de l'ILP, qui était une petite dissidence d'extrême-gauche du mouvement travailliste. Et faute de connaître le véritable itinéraire philosophique d'Orwell, il est clair que la lecture, que Simon Leys appelle « digne du Reader Digest », a empêché de voir tout ce qui, dans l'œuvre d'Orwell, continuait à être une œuvre anticapitaliste, en prenant le mot au sens le moins idéologique du terme, puisque rien n'est moins idéologique que l'œuvre d'Orwell.
Mais peut-être avant de revenir sur les lectures très contemporaines de 1984, Jean-Claude Michéa, vous pouvez nous rappeler les conditions dans lesquelles votre premier livre, qui est à l'origine un article, Orwell, anarchiste Tory, a été publié? Parce que d'une certaine façon, cette histoire-là témoigne un peu de la difficulté interprétative qu'on a à l'égard de ce texte 1984.
Oui, enfin, pour autant que c'est un intérêt, À l'origine, la première partie de ce qui va devenir Orwell Anarchy Story, c'est un article que j'avais écrit en 1983 pour Jean-Piel et la Revue Critique. Et lorsque je l'ai remis à Jean-Piel, il m'a félicité, mais il m'a dit qu'il y avait déjà trop d'articles en prévision sur Orwell, et finalement il ne le publierait pas. Et il se trouve qu'à l'époque, je connaissais déjà beaucoup Georges Semprin, qui... ayant lui, au contraire, trouvé que cet article, qui résumait un peu l'œuvre d'Orwell à une époque où il n'était pas très connu en tant qu'essayiste en France, avait tout fait pendant 2 ans, en Espagne et en France, pour essayer de faire publier cet article. Et au bout de 2 ans, il avait abandonné, parce que chaque fois, il rencontrait des refus polis, et que j'expliquais tout simplement par le fait que... la thèse que je défendais, c'était qu'Orwell était à la fois un critique du totalitarisme soviétique et un critique du capitalisme. Et l'intelligentsia du temps, cette intelligentsia qui venait au pouvoir avec dans ce qu'on a appelé les années Mitterrand, se divisait en deux. L'une un peu béhachelienne qui aurait accepté la critique du stalinisme, mais surtout pas celle du capitalisme qui allait avec. Et de l'autre côté, certains représentants maintenant un anticapitalisme et un peu fossilisé, et pour qui tout usage du concept de totalitarisme était libéral et réactionnaire. Et donc, en fait, j'ai abandonné ce texte à la critique rongeuse des souris pendant 10 ans, jusqu'au jour où mon ami Alain Martin, qui venait de fonder les éditions Climat du côté de Montpellier, ayant retrouvé complètement par hasard le dernier exemplaire de ce texte tapé à la machine, Alain Martin, qui avait toujours été choqué du fait qu'on n'ait jamais pu le publier, a profité du fait qu'il était devenu à son tour à la tête d'une maison d'édition, m'a demandé de lui ajouter une deuxième partie pour en développer les idées. Et c'est ainsi qu'en 1995 est né Orwell Anarchiste. Mais enfin, donc, la première partie date déjà de 1983 et elle était restée 10 ans dans des tiroirs. Aucun éditeur en France ou en Espagne d'acceptant de le publier.
Alexandre Devecchio, Simon Less écrit que la gauche s'est fait piquer Orwell et Régis Debray tout à l'heure disait Orwell enrôlé après sa mort dans un camp qui n'était pas forcément le sien. Est-ce qu'il y a un rapt aujourd'hui avec une sorte d'Orwell, nouvelle figure de la droite contre ce qu'il fut?
Concernant la gauche, c'est comme quand on laisse ses vêtements sur une plage, il arrive qu'on se les fasse piquer. En tout cas, pour ce qui est du comité Orwell, moi, il n'y avait aucune tentative de récupération et encore moins de le rattacher à la droite. Je suis pas sûr que je me considère comme un homme de droite. Je suis plutôt un homme de passion et c'est l'intellectuel, l'homme Orwell qui m'intéressait justement parce qu'il appartenait à aucun camp. Ça a été rappelé par Régis Debray. Hein. Orwell, ce qu'il caractérise, c'est le refus de tout manichéisme. Il était venait d'un milieu plutôt aisé, mais proche des gens ordinaires. Il était athée et pourtant attaché aux valeurs éthiques de la religion. Ça a été rappelé par Régis. Défenseur des valeurs traditionnelles et néanmoins désireux de bousculer l'ordre social. Patriote et révolutionnaire, anarchiste et conservateur. Bref, un empêcheur de tourner en rond. Et je pense que c'est surtout ça qui nous a séduit. Il n'y a aucune tentative de rapt idéologique. Ça révèle peut-être simplement le manque de curiosité intellectuelle aujourd'hui d'une partie de la gauche, y compris par rapport à des auteurs qu'on pourrait plus spontanément raccrocher à la gauche qu'à la droite.
Mais il y a quand même cette question de capacité qu'un texte comme 1984 à être l'objet de lectures diverses. Je reviens à ce texte d'Isaac Deutscher qu'on a cité en début d'émission. Et il écrit un peu plus loin, un livre comme 1984, au contraire, peut être utilisé sans qu'on tienne aucun compte des intentions de son auteur. Certains de ces aspects peuvent être isolés de leur contexte, tandis que d'autres, mal accordés au but politique qu'on veut lui faire servir, sont ignorés ou pratiquement supprimés. Jean-Claude Michéa, cette malléabilité d'une certaine façon du texte d'Orwell, qu'en dites-vous? Est-ce que vous vous rattachez à cette vision de ce texte?
Je ne partage pas les idées d'Isaac Deutscher, qui a écrit en 1955 un ouvrage « Mysticism of Cruelty » qui était entièrement consacré à démonter l'œuvre d'Orwell. Et il faut y voir, à mon avis, une réaction assez compréhensible de l'intellectuel de gauche typique, qui était Deutscher, devant la thèse fondamentale, qui est celle de 1984, et qui est au-delà celle de toute l'œuvre d'Orwell. Je voudrais rappeler, de ce point de vue, que nous lisons souvent 1984, c'est peut-être à quoi vous faites allusion quand on parle de sa complexité, en nous plaçant spontanément du point de vue de Winston Smith, comme s'il était le point de vue d'Orwell lui-même. Or, quand on lit le texte, il faut comprendre que l'univers décrit dans 1984, et qui n'est justement pas un univers de science-fiction, mais comme Orwell le dit, une satire du mode de pensée des intellectuels de son temps, c'est un univers qui ne comporte que 15% de la population d'Océania. 15% qui se divise en deux parties. D'un côté, il y a le parti intérieur, le sommet, la tête, qui comporte 1 à 2% de la population. On pense à la théorie du 1% d'Occupy Wall Street ou de Nuit Debout. Et ensuite, les 13 à 14% du parti extérieur, l'ensemble formant les classes moyennes, et notamment les classes moyennes intellectuelles, qui sont, dans la théorie d'Orwell, le support de la perversion totalitaire du socialisme. Quant au reste de la population, les 85%, les proles, je signale à ce sujet-là que dans la traduction de 1950 d'Amélie Audiberti, il y a un lapsus qui n'a été corrigé que ces dernières années. On disait que 85%, c'était le pourcentage de membres du parti et les ouvriers ne représentaient que 15%. Bien sûr que c'est le contraire. Or, les proles, les prolétaires dans 1984, quand on y réfléchit, ils existent non seulement à la périphérie du système, mais Big Brother ne s'occupe pas d'eux. Ils n'ont pas de télécran, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent, il n'y a quasiment pas la police de penser à leur trousse. Ils sont hors champ dans le roman. Le roman ne s'intéresse qu'à l'horizon intellectuel de cette intelligentsia dont Orwell rappelle dans « Le lion et la licorne » que de nos jours, tout intellectuel est quelque part de gauche, dont il pense que pour des raisons sociologiques, en tant que représentant de ce qu'il appelle le « middle class socialisme », elle est poussée à lutter pour le pouvoir et à ne se servir du mouvement ouvrier et du socialisme originel que comme un tremplin assurer, réaliser ce que Orwell appelle son désir de tenir à son tour le fouet, désir inconscient. Autrement dit, Deutscher et beaucoup d'autres ont senti quelque part que derrière la critique du totalitarisme, il y a ce thème fondamental de la pensée orwellienne, dont la première origine, on la trouverait, mais Orwell ne l'a jamais lu, chez l'anarchiste polonais Jan Makaski, qui à la fin du XIXe siècle avait analysé les dérives du mouvement socialiste comme étant l'œuvre d'une mainmise de l'intelligentsia et des nouvelles classes moyennes sur le mouvement ouvrier et paysan. Eh bien, on trouve chez Deutscher ici, mais on pourrait citer d'autres auteurs, cette sorte d'hostilité rabique à Orwell, parce qu'ils ont bien compris que le texte n'était pas en fait antisocialiste, mais condamnait la perversion du socialisme quand, à la faveur du mouvement historique, ce sont les nouvelles classes moyennes, et particulièrement l'intelligentsia au sens strict, qui s'emparent du pouvoir au nom du socialisme. Je rappelle que dans 1984, quand on décrit la nouvelle aristocratie, ouais. Et là on comprend que les idées de Burnham ont beaucoup marqué Orwell, quand il décrit cette nouvelle aristocratie qui forme le parti intérieur et le parti extérieur, les 15% dont Winston Smith est un des représentants. Quelle est sa composition? Il nous dit, elle se composait pour l'essentiel de bureaucrates, d'hommes de science, de techniciens, de syndicalistes, d'experts en publicité, de sociologues, d'enseignants, de journalistes et de politiciens professionnels. On dirait la composition du PS aujourd'hui, d'Europe Écologie Les Verts.
Oui,
c'est-à-dire, et c'est là
ou d'En Marche.
Le point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'à l'époque de Staline et du Parti communiste, à l'époque de Georges Cogniot et de Jean Canapa ou de Jdanov, le Parti communiste et la CGT avaient encore une base ouvrière et populaire très forte qui mettait des limites aux dérives intellectuelles de l'intelligentsia communiste. C'est ce que je dis de manière souvent polémique en disant Kanapa Konyo, hein, ou Jdanov à la limite, n'aurait jamais été aussi loin dans la folie idéologique que de nos jours une Alice Coffin ou un Geoffroy de la Gannerie. Hein. Quand vous regardez la dérive de l'UNEF par rapport à la grande UNEF de l'époque et l'UNEF de Mélanie Luce aujourd'hui, vous comprenez ce qui s'est passé quand la base sociologique de la gauche, une fois qu'elle a, dans les années 80, renoncé au socialisme, bien a progressivement cessé d'être les gens ordinaires, la classe ouvrière, les employés de bureau, les paysans, pour devenir cette liste que j'ai lue tout à l'heure. Et évidemment, 1984 doit être lu de cette manière.
Alexandre Smith, ce n'est pas Orwell. Oui, l'actualité donc de 1984, ça serait justement ce découplage entre des élites dirigeantes contemporaines et les couches populaires.
Oui, c'est marrant. J'avais noté exactement le même extrait effectivement sur la description de l'intelligentsia avec les syndicats, les journalistes, les intellectuels. Je crois qu'il rajoute que toute cette petite classe dirigeante communie dans un mépris commun du peuple. Donc effectivement, ça peut ressembler à la fracture actuelle entre les élites et les classes populaires. En tout cas, Jean-Claude Michéa met le doigt sur un contresens. Ce qui est parfois fait lorsqu'on lit 1984, on peut avoir l'impression, et c'est vrai qu'il le fait d'une certaine manière, qui décrit un système totalitaire, policier, militaire, inspiré des régimes totalitaires qu'on a connus dans l'histoire. Mais effectivement, quand on relit le texte, on s'aperçoit de son incroyable modernité et qu'on n'est pas là-dedans, mais justement dans la description d'une, comme ça a été dit, d'une petite intelligentsia. Il y a aussi la question de la mondialisation. Je pense que c'est une des intuitions qui est peu vu chez Orwell, l'idée d'un monde totalement uniforme, hein, qu'il décrit en trois blocs qui font semblant de s'affronter en permanence, l'Océania, l'Eurasia et l'Est-Asia. Et là encore, ça peut penser à notre univers globalisé dominé par les GAFA. Donc c'est vrai que c'est toute une dimension qu'on ne voit pas d'Orwell. En retenant que l'idée de société de surveillance, c'est souvent ce qu'on retient de 1984, alors qu'il y a bien d'autres aspects, mais que Jean-Claude a évoqué aussi au début, la cancel culture, la réécriture permanente de l'histoire, à l'heure où on déboulonne les statues, il est frappant effectivement de voir à quel point c'est contemporain.
Oui, parce que dans 1984, résister, c'est avoir de la mémoire, Alexandre Devecchio.
Oui, tout à fait. Il y a toute une réflexion sur la réécriture de l'histoire. Alors, ça fait penser effectivement aux soviétiques qui éliminaient des photos des journaux, les cadres qui avaient disparu. Mais là, c'est poussé très très loin. Et il y a quelque chose d'extrêmement contemporain. Il y a cette phrase que j'avais notée quelque part où Orwell fait dire à Winston Smith, je crois, tout ce qui était ancien et beau était devenu suspect. Là encore, je trouve que ça fait penser à notre époque avec cette tentation de la table rase. Et puis, il y a aussi, de manière extrêmement moderne, et ça s'inscrit dans la culture de l'effacement chez Orwell, on en a parlé, la novlangue, mais qui va jusqu'à la destruction du vocabulaire. Parce que l'idée qu'on détruise le vocabulaire permet effectivement d'éviter ce qu'il appelle le crime de la pensée, parce que finalement les gens n'auraient plus assez de vocabulaire pour faire preuve d'un minimum d'esprit critique. Là encore, je trouve que ça rejoint pas mal de nos débats contemporains, sans vouloir être trop simpliste, mais l'écriture inclusive, d'une certaine manière, plus qu'une féminisation de la langue, je trouve que c'est un appauvrissement de la langue si c'est poussé jusqu'au bout, et quelque chose qui risque de nous empêcher de penser. Donc il y a tout ça, et ça fait vraiment écho à notre présent.
France Culture, comment les livres changent le monde. Régis Debray, Didier Lesky et Alban Cerisier.
Jean-Claude Michéa sur cette question du sens des mots, du maintien du sens des mots, qui est une des piliers du rôle de l'intellectuel selon Orwell. Vous incitez beaucoup sur cette question dans votre propre texte, en y ajoutant, je crois, le sens du réel et le sens de la morale.
Oui, mais là, on touche quelque chose d'essentiel dont on n'a pas encore vraiment parlé. Orwell a insisté jusqu'au bout. Il n'était pas satisfait de la forme du livre qu'il avait écrit, parce qu'il l'avait écrit dans des conditions de santé qui ne lui permettaient pas de lui donner la forme finale qu'il voulait. Mais il avait tenu à tout prix que l'appendice sur le novlangue et le livre de Goldstein au milieu du texte soient partie prenante du livre, alors que les éditeurs américains avaient tout simplement proposé de l'enlever. Or, pour Orwell, c'était bien là l'essentiel, car il faut comprendre que ce qui distingue la nouvelle aristocratie, le nouveau totalitarisme dont Staline et la Russie sont le berceau originel, mais dont la Silicon Valley et les GAFAM représentent une extension capitalistique moderne, il faut voir que ce qui fait son originalité, c'est que, contrairement aux aristocraties ancienne, la nouvelle aristocratie entend prendre et exercer le pouvoir au nom de l'égalité, de l'abolition des classes et de l'égalité absolue. Or, vous comprenez la contradiction qu'il montre dans toute son œuvre, c'est-à-dire comment peut-on construire le pouvoir le plus absolu sur le peuple et les gens ordinaires au nom de l'idée de l'égalité absolue ? La seule solution, c'est que certains sont plus égaux que d'autres. Hein, vous connaissez la formule dans Animal Farm. Et surtout, ça implique forcément un régime mental de type nouveau, qu'il appelle la double pensée, qui s'incarne dans le novlangue également, qui explique cette figure de l'intellectuel de type nouveau. Et j'insiste, parce que au fond, on pourrait dire qu'au XIXe siècle, il existait des intellectuels de gauche, de Benjamin Constant à Victor Hugo, Zola, etc. Ce qui apparaît avec la Révolution russe et le stalinisme, c'est la figure de l'idéologue, et l'idéologue se distingue de l'intellectuel par un régime mental inédit dans l'histoire, si on met de côté quelques passages de l'histoire de l'Église, et avant Orwell, Dostoïevski, dans La Légende du Grand Inquisiteur, avait déjà fait des analyses qu'elle est dans le sens d'Orwell. Mais ce que Orwell montre, et c'est le cœur de 1984, ce qui nous fascine chez l'idéologue de gauche tel que Staline le produit, mais tel qu'on le trouve dans l'UNEF aujourd'hui ou dans la cancel culture américaine, c'est cet individu qui est capable de penser en même temps deux choses contradictoires, ce qui, dit Orwell, se traduit par le fait que l'intellectuel totalitaire de notre temps pratique toujours le deux poids, deux mesures, hein, le double standard of morality, hein, dit-il, et ça c'est ce qui nous frappe le plus et qui suppose pour fonctionner à la fois de s'incarner dans une novlangue. Or là, la logique intersectionnelle vous produit un nouveau langage où les mots sortent du larynx sans passer par le cerveau, et un déni perpétuel de la réalité. Comment ne pas voir le goulag ? Comment ne pas voir ce que j'ai devant les yeux ? Et comment même, quand j'ai quelque chose devant les yeux, voir ce qui n'est pas ? Parce que je rappelle que l'un des textes qui fascinait Orwell, c'était « Les habits neufs » de l'empereur d'Andersen. Il l'avait même monté pour la BBC à la radio pendant les années de guerre.
Précisez peut-être un peu ce qu'est ce texte, ce qu'il dit.
Dans les habits neufs, c'est pas par hasard non plus, si Simon Leys prend le titre « Les habits neufs du président Mao » pour décrire sa première grande critique de la révolution culturelle, on sait que dans cet empire imaginaire, deux tailleurs qui sont des escrocs arrivent à convaincre l'empereur qu'ils vont lui vendre, lui tailler le costume le plus magnifique qui existe au monde, mais qui aura la particularité d'être invisible par tous ceux, parmi les gens ordinaires ou les courtisans qui l'entourent, ne sont de mauvais sujets. Et effectivement, c'est une escroquerie. Lorsque le roi, l'empereur, sort pour montrer à son peuple les habits neufs extraordinaires qu'il a payé une fortune, il est nu. Mais, et c'est là où l'idéologie fonctionne, chacun individuellement voit bien que le roi est nu, mais le montage idéologique fait que par peur de passer pour réactionnaire et mauvais sujet, on est obligé de voir le roi habillé et de s'extasier sur la magnificence de ses habits, à l'image de ces intellectuels de gauche qui revenaient de Chine à l'époque de la révolution culturelle et de ses centaines de milliers de morts, et qui décrivaient les habits neufs de Mao et le paradis qui se construisait en Chine, incapables non seulement de voir ce qu'ils avaient sous les yeux, mais voyant des choses qui n'y étaient pas. Et c'est le cœur de 1984 d'Animal Farm et le cœur de l'œuvre de Orwell, ce qui est le signe de sa modernité absolue, c'est de s'intéresser au mode de pensée, ce qu'il appelle la double pensée, avec son novlangue, son déni de la réalité, son culte du deux poids deux mesures, qui fait qu'un intellectuel perd toute honnêteté intellectuelle, mais, et c'est là l'essence de la double pensée, en demeurant parfaitement sincère. C'est toute la différence avec la mauvaise foi chez Sartre. Quand on est de mauvaise foi pour Sartre, on sait bien au fond qu'on se ment à soi-même. Tandis que la nouveauté de l'idéologie, c'est, dit Orwell, un système de pensée schizophrénique qui fait que quand vous avez devant vous un militant de l'UNEF d'aujourd'hui, il est sincère de manière absolue dans sa négation du réel et dans cette capacité de pratiquer la double pensée et le deux poids deux mesures. Et j'ajoute une dernière chose, parce que c'est important, après ce qu'a dit Alexandre, c'est que il existe effectivement, il a existé aux États-Unis, Norman Podoret, etc., une tendance de droite à récupérer Orwell, mais aujourd'hui, celui qui se servirait d'Orwell pour critiquer le politiquement correct, sans voir qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le politiquement correct, c'est une mise à jour libérale et anti-marxiste ou anti-socialiste, si l'on veut, des anciens mécanismes idéologiques, serait dans la position décrite par le penseur américain Russell Jacoby, qui se moque de ceux qui vénèrent le marché tout en maudissant la culture qu'il engendre. C'est tout le problème. On ne peut beaucoup de gens à droite sont suffisamment lucides pour critiquer le politiquement correct, la woke culture, et disent des choses, ça me rappelle Marx écrivant dans le manifeste du Parti communiste, que la critique d'extrême droite du capitalisme est souvent mordante et spirituelle. On trouve des choses remarquables écrites chez beaucoup de penseurs de droite qui critiquent les formes aberrantes que prend l'esprit woke de la nouvelle gauche américanisée, mais encore faut-il voir que ce que devient il faudrait écrire à la manière de Max Weber aujourd'hui, l'éthique woke et l'esprit du nouveau capitalisme. C'est-à-dire que le politiquement correct, loin d'être une émanation du socialisme, est plus que jamais la forme que va prendre aujourd'hui la dérive libérale et la dérive logique libérale. Hein, l'espace safe, c'est la neutralité axiologique. Un endroit où il n'y a plus de valeur commune permettant le débat, où on ne se demande plus si une idée est vraie ou fausse, mais si elle est offensante ou non en fonction de la sensibilité de telle ou telle minorité. Et je rappelle pour terminer que Orwell, dans un texte sur la liberté de presse qui n'a été publié qu'en 1972 et qui devait servir de préface à Animal Farm, écrit « La liberté d'expression, c'est la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. » C'est-à-dire la liberté de les blesser, de les offenser, parce que
Alexandre
la vérité
Vecchio, vous qui êtes journaliste,
passe avant la sensibilité subjective.
Oui, Alexandre de Vecchio, vous qui êtes journaliste, cette dimension-là de Orwell doit vous être chère.
Non, mais ce que dit Michéa, je dois dire que j'ai redécouvert aussi Orwell en lisant Michéa, et je pense que Michéa a une intuition fondamentale. On pourrait aussi citer Bossuet, Dieu se rit des hommes qui chérissent les causes dont ils déplorent ensuite les conséquences, et c'est vrai ce que dit en fait Jean-Claude Michéa, c'est vrai pour la gauche et c'est vrai pour la droite. On a une gauche finalement qui embrasse toutes les nouveautés sociétales et qui ne voit pas qu'elle fait finalement le jeu du marché et du capitalisme le plus hors sol et finalement le plus inégalitaire et le plus inhumain. Mais d'un autre côté, on a aussi une droite qui se veut traditionnaliste, qui défend les valeurs de la famille, etc., et qui dans le le même temps défend le marché, la mondialisation, sans voir que celle-ci est destructrice de ses valeurs traditionnelles, de ses attachements fondamentaux, voilà, auxquels la droite est attachée. Donc il y a une incohérence que Michéa, à travers ses livres sur Orwell, mais à travers toute son œuvre, je trouve a formidablement montré. Et ça a longtemps été, je pense, la raison de, c'est une des raisons de la crise de la démocratie aujourd'hui, parce que en réalité, on a eu pendant des années une fausse alternance entre une gauche sociale libérale et une droite libérale sociale. Voilà, les deux camps faisaient finalement la même politique. Emmanuel Macron a, d'une certaine manière, le mérite de la cohérence, d'être libéral, libertaire et de l'assumer. Bon, mais aujourd'hui, il se trouve malheureusement que la seule alternative qu'on présente à la population est Marine Le Pen. Et voilà où on en est arrivé avec ce, sans vouloir ramener à un débat bêtement politique, mais avec cette fausse alternance qui dure depuis une quarantaine d'années.
Alexandre Desvecchio, oui, c'est la particularité de 1984, c'est-à-dire c'est ce faux affrontement entre deux mondes qui en réalité sont identiques, c'est ça.
Oui,
qui...
c'est ce que je disais tout à l'heure en disant qu'il avait bien vu le phénomène de la globalisation avec des blocs uniformes qui font semblant de s'affronter. En cela, il est extrêmement visionnaire. Mais on a beaucoup parlé de son aspect visionnaire. Je crois aussi que ce qui touche et qui touche toutes les générations, même ceux qui sont moins entrés dans le texte que Jean-Claude Michéa, et c'est le fils Richard Blair, le fils de George Orwell, qui était en fait qui s'appelait George Blair, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a 2 ans, qui me l'a dit. Je lui ai posé un peu bêtement la question qu'on pose tous sur Orwell: comment expliquez-vous que votre père était si visionnaire? Il m'a dit: vous avez rien compris, en fait mon père n'a pas écrit sur le futur, mais il a écrit sur le présent, sur la boue de pouvoir. Alors j'ai noté sa réponse, il m'a dit: c'est un phénomène qui existe depuis toujours, depuis les temps bibliques, depuis que Cain a tué Abel, et même avant cela. Mon père n'a pas raconté ce qui allait se produire, il a dit ce qui pouvait arriver si on laissait les choses se faire. Il n'était pas visionnaire dans le sens où il aurait décrit une réalité future, il parlait de son présent qui est aussi notre présent. Et donc je pense que paradoxalement, l'œuvre d'Orwell est visionnaire, mais elle est aussi intemporelle, et c'est pour ça qu'elle parle à toutes les générations. Et maintenant, ce qu'il faut se demander, c'est justement pourquoi, sans comparer effectivement notre système avec les systèmes soviétiques et nazis, parce que je crois que ça n'a pas lieu d'être, en quoi finalement, pourquoi ça résonne aussi fortement en nous, et pourquoi ce thème de l'abus de pouvoir est toujours d'actualité.
Oui, et puis aussi cette question du rapport à la vérité. Jean-Claude Michéa, le fait qu'un des slogans de la dernière élection américaine ait été « Make Orwell Fiction Again », qui était reproduit sur toutes les casquettes, les t-shirts vendus en masse aux États-Unis, qui était donc un slogan anti-Trump, hein, bien sûr. Pour vous, c'est quelque chose qui relève de la reconnaissance du pouvoir d'un livre, hein, et d'un auteur, ou c'est un malentendu très réducteur?
Bah, il est certain que Trump était un personnage tout à fait digne du monde orwellien. Mais le problème, c'est que la Silicon Valley, Hollywood et Wall Street appartiennent au même univers. Hein. Autrement dit, ça fait allusion à ce que vous disiez tout à l'heure de la complexité de Orwell. On voyait des gens capables de dénoncer à la lumière de 1984 certains aspects de 1984 sans voir qu'eux-mêmes participaient de cette logique. Et on en revient vraiment à cette idée de base d'Orwell. Dans The Road to Wigan Pier, tout est là. Il nous dit: le socialisme est quelque chose de si conforme au bon sens le plus élémentaire que je m'étonne parfois qu'il n'ait pas déjà triomphé. Et le socialisme, pour Orwell, prend toujours appui sur les gens ordinaires. Il dit dans Le Lion et la Licorne que une des causes de notre malheur, c'est que nous croyons, enfin, les intellectuels croient spontanément, dit-il, qu'un demi-crétin sorti d'une grande école est plus apte à diriger la société qu'un ouvrier mécanicien intelligent. Il dit même d'ailleurs dans son essai sur Burnham, une des formules que j'aime beaucoup: faut vraiment être un expert aujourd'hui pour pouvoir se tromper de façon aussi grossière. Et la question est, le socialisme étant finalement quelque chose qui correspond à la décence élémentaire et au bon sens des gens ordinaires, comment se fait-il qu'il n'ait pas déjà triomphé ? Et 1984 nous répond sous la, dans le discours de Bruyenne, le sens commun, le bon sens, est aujourd'hui l'hérésie des hérésies. Et derrière cette idée, il y a la confiscation de cet idéal socialiste des gens ordinaires, du bon sens élémentaire, de la justice élémentaire, confisqué par une élite qui a compris plus ou moins consciemment qu'elle pourrait se servir de ce projet historiquement né au XIXe siècle pour assoiffer, pour assouvir sa propre soif de pouvoir, sa propre volonté, dit Orwell, de tenir à nouveau le fouet. C'est ça tout Orwell, c'est comment comprendre que le socialisme, qui est non pas une utopie, mais quelque chose qui plonge ses racines dans la vie ordinaire des gens ordinaires et qui demande d'abord du bon sens et puis des choses simples. Hein, les fameux textes sur le crapaud ordinaire où il dit « Celui qui n'est pas capable de comprendre, de retrouver son amour enfantin pour les papillons, les crapauds et les arbres, celui-là ne pourra jamais lutter véritablement pour un monde socialiste et pacifié. » C'est tout depuis 1937, tout Orwell par-delà. Comment comprendre qu'un projet qui, normalement, devrait déjà être réalisé, a abouti et accouché de quelque chose qui est son exact contraire, jusqu'à maintenant débordé sur le capitalisme lui-même. Pourquoi aujourd'hui, à l'ère de Twitter et de la Covid-19, on est dans un monde presque encore plus orwellien, parce que notre dépendance est devenue plus grande, qu'il ne l'était à l'époque de Staline, alors que jamais les critiques de base que le socialisme faisait de l'économie de marché et de la culture qui lui correspondait n'ont paru aussi justifiées. Nous allons vers l'abîme, c'est ce que disait Simon Leys déjà en 1984, nous allons vers l'abîme parce que le capitalisme nous y conduit logiquement et normalement, et nous sommes toujours dans une situation qui est celle qu'Orwell décrivait en 1937, que ce qui devrait avoir déjà triomphé est peut-être aujourd'hui plus loin de nous que jamais. Hein, ça, c'est l'aspect pessimiste. Et il ne dépend évidemment que de nous d'arrêter cette course vers l'abîme, cette fuite en avant. Et évidemment, dans les munitions intellectuelles qui nous permettent, si c'est encore possible, d'arrêter le progrès du capitalisme, l'œuvre d'Orwell a une fonction centrale, mais Simon Leys l'a dit mille fois mieux que moi, avant moi.
Régis Debray, tout à l'heure, dans son introduction, disait que la caractéristique du monde politique, c'est son immoralité, et dans 1984, il y a justement cette idée que l'élite, et c'est peut-être ce que vous voulez dire dans l'actualité, détourne un sens commun normatif ordinaire qui, lui, serait spontanément beaucoup plus tourné vers l'égalité, c'est ça ?
Oui, alors l'élite, parce que je la connais bien aussi, pour la fréquenter, vous répondrez que il n'y a pas de raison que le peuple soit plus vertueux que l'élite. Mais on voit bien aujourd'hui que, alors Orwell appelait ça le sens commun, on voit bien aujourd'hui que dans l'establishment, ce qu'on déteste le plus, c'est le bon sens, en fait. Quand on se revendique du bon sens dans un débat public, on est immédiatement assimilé au populisme, etc. Et donc, je crois que ça traduit finalement la détestation du populisme peut traduire voilà une détestation de la démagogie, mais aussi une détestation plus profonde finalement du peuple et voilà de son bon sens. Et tout à l'heure, on parlait de Donald Trump, et c'est vrai que c'est un produit du capitalisme mondialisé, postmoderne, milliardaire, ancien présentateur de télé-réalité, mais on l'a beaucoup accusé d'être dans la post-vérité, mais effectivement, la gauche woke est elle aussi dans la déconstruction de ce qui pourrait apparaître le bon sens. Enfin, quand on les écoute, un homme n'est plus un homme, une femme n'est plus une femme, l'histoire n'est pas l'histoire, on est dans l'anachronisme permanent. Donc là, il y a vraiment un parallèle. Eux aussi sont dans la post-vérité. Et finalement, Donald Trump est aussi le produit de cette déconstruction-là. Et je pense que paradoxalement, s'il a gagné, s'il a eu un écho à un moment donné, c'est que malgré tout, il lui restait peut-être une forme de bon sens, alors dans une vulgarité, voilà, qui pouvait choquer, mais il a su parfois parler au bon sens de l'homme ordinaire mieux que ne l'a fait la gauche américaine en Limousine.
Alexandre Vecchio, est-ce que vous pensez que c'est à ces questions-là que finalement que les jeunes lecteurs ou les nouveaux lecteurs de 1984 se rattachent le plus, ou simplement à la description de ce que c'est qu'une société de surveillance qui maîtrise les données de vie, les données quotidiennes, les données les plus intimes des citoyens, ou plus simple ou autrement d'une société qui nous parle mal, qui invente un langage qui nous agresse par sa négation des choses très réelles et de la façon dont elle vit au quotidien. Est-ce que c'est pas ça, la lecture toute simple que font les...
Oui, c'est ce que je disais en citant le fils de George Orwell et moi-même en rappelant que sans doute j'avais eu une première lecture de 1984 qui était une lecture qui avait été séduite par l'imaginaire aussi de George Orwell, même s'il a une écriture simple. Enfin, le monde qu'il décrit est fascinant et ça peut être lu comme un roman d'anticipation, une dystopie, et d'ailleurs qui a inspiré nombre de séries américaines par la suite. Donc il y a une lecture, il y a cette lecture-là, je pense, qui fascine la jeunesse. Il y a
le côté très présente pendant la pandémie.
Le côté paresseux des journalistes qui réduit ça à la société de surveillance, même si c'est vrai qu'il a une intuition technologique géniale avec les télécrans qui peuvent faire penser à nos smartphones. Il y a aussi, on le cite moins, mais la minute de la haine. Il s'agit de désigner un bouc émissaire une fois par jour, ça peut faire penser à nos réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'autant des GAFAM, ça saute aux yeux à quel point il est actuel. Pour montrer l'emprise des GAFAM, il y a une comparaison qui est intéressante. Je crois qu'il y a plus de 2 milliards d'abonnés Facebook. C'est plus aujourd'hui que d'adeptes du christianisme. Donc c'est pour vous dire le changement de monde. Et voilà, et c'est, je pense que c'est ce qui frappe en premier, ce qui n'empêche pas d'avoir une seconde lecture plus profonde.
Jean-Claude Michéa, Simon Leys, qu'on a déjà cité, écrivait dans l'essai qui fait encore référence aujourd'hui sur Orwell, « Aujourd'hui, je ne vois pas qu'il existe un seul écrivain dont l'œuvre pourrait nous être d'un usage pratique, plus urgent et plus immédiat. » Est-ce que cette attente, d'une certaine façon, d'un usage pratique, urgent et immédiat d'une œuvre, comme celle de 1984 et plus généralement de l'œuvre d'Orwell, est quelque chose qui aurait choqué l'écrivain Orwell ? Dans son projet d'écrivain, bien sûr.
Pas forcément, parce que quand même, Orwell, notamment dans son fameux texte « Pourquoi j'écris » de 1946, dit que tout son travail a été de transformer l'écriture politique en art. C'est-à-dire que Orwell était, au bon sens du terme, un militant. Il voulait convaincre, il aurait été... bien que chez lui, le désir d'être un grand écrivain ou d'être un écrivain ne se séparait pas d'une intention politique. Donc je pense que sous ce rapport, il aurait été heureux de voir que le livre qu'il avait écrit, et au-delà les essais qu'il avait écrits, pourrait avoir tant de décennies après ce rôle. Sauf que s'il revenait de nos jours et voyait justement la diversité des lectures d'Orwell, il se dirait que les choses n'ont pas toujours progressé, puisqu'il y a toujours des gens qui s'emparent d'un fragment d'Orwell contre un autre, etc. Et au fond, il est toujours aussi difficile de lire Orwell dans sa cohérence véritable. Et personnellement, c'est ce que j'essaye de faire dans les quelques livres que j'ai écrits sur lui ou les livres que j'ai écrits en général. Mais en résumé, hein, Orwell attendait de pouvoir peser sur la manière dont les choses étaient lues et le monde actuel combattu. Mais de ce point de vue, les choses n'ont pas énormément progressé parce que, au fond, nous sommes plus près encore du précipice que nous l'étions à l'époque où Orwell publiait en 1949-1984. Le monde tel qu'il devient, humainement, anthropologiquement impossible, écologiquement désastreux, etc., il y a devant nous ce qui nous attend, normalement, c'est encore bien pire que la simple Russie de Staline. Déjà, Staline était... Il y a une formule qu'on n'a pas citée tout à l'heure, que j'aime beaucoup d'Orwell, et qui explique la différence entre le totalitarisme d'extrême droite et celui de la gauche, c'était Hitler brûlait les livres, Staline les réécrit. Et aujourd'hui, nous allons encore plus loin dans la production d'une pensée qui devient folle, où le bon sens et la common decency deviennent des qualités qui sont omniprésentes chez les gens ordinaires, mais qui sont de plus en plus diabolisées. Et je pense donc que si Orwell revenait, il serait toujours aussi combatif, mais il se dirait toujours « j'ai encore plus de boulot sur la planche qu'en 1949 ».
Régis Debray.
Bah écoutez, j'ai beaucoup à vous apprendre en vous écoutant, mais je vous rappelle tout de même, je vous rappelle par conséquent, le titre de notre série, « Comment les livres changent le monde ». Il est certain que Orwell, avec 1984, a changé notre perception du monde. Mais comment cette perception peut-elle déboucher sur une action ? Vous savez, le vieux Marx, auquel on ne se réfère jamais assez, disait qu'une idée devient force matérielle en s'emparant des masses. Bon. Et celui qui essaye de s'emparer des masses, mais qui n'y arrive pas vraiment, c'est l'intellectuel. J'aime beaucoup l'opposition entre l'idéologue et l'intellectuel. Je dirais que l'intellectuel est une figure tragique. Et l'idéologue me semble plutôt une figure comique. L'intellectuel est une figure tragique parce que c'est un solitaire, c'est un franc-tireur, c'est un marginal. Il n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord avec lui. Et il se fait souvent insulter. Alors que l'idéologue, ça a été fort bien dit, l'idéologue est à même, il nage avec son époque. Et donc, il a de l'écho, comme on dit. La question qu'on, maintenant, on peut se poser, comment faire d'un intellectuel un idéologue, c'est-à-dire comment faire d'un livre un outil de transformation? Est-ce que les intellectuels seulement peuvent le faire? Est-ce qu'il ne faut pas un imaginaire? Est-ce qu'il ne faut pas, je dirais, tout pouvoir mouvoir une masse assez sombre de motivation dont l'intellectuel doit se défaire? Donc, voyez-vous, devant 1984, je dis admirable démontage. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et peut-on faire en restant admirable? J'en doute.
Merci Régis Debray, merci Jean-Claude Michéa, merci Alexandre Devecchio, merci Alban Cerisier.
C'était Comment les livres changent le monde, une émission proposée par Régis Debray, Alban Cerisier et Didier Lesky. Prise de son, Yves Lehors. Attaché de production, Corinne Amard. Réalisation, Guillaume Baldi. Vous pourrez écouter et réécouter cette émission sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France.